Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'écoute de Erdiwa 107.5 pour une interview spéciale aujourd'hui dont la thématique est la Terre creuse. Et pour ce faire, on a invité aujourd'hui Pierre Fontanel. Bonjour Pierre Fontanel.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un article que vous avez écrit dans un numéro de Nexus concernant effectivement ce qu'on peut appeler la théorie de la Terre creuse.
Tout à fait. Donc, moi, je ne me suis pas destiné à ça par mes études. En fait, j'ai uniquement un bac scientifique, mais j'ai toujours été très curieux en astronomie, notamment. Et le jour où je suis tombé sur cette idée qui m'a semblé farfelue tout de suite, voilà, la Terre serait creuse, j'y ai pas cru. Je me suis dit, voilà, c'est une bonne blague, c'est pas possible. En plus, on voyait une photo avec une ouverture polaire, et je me suis dit, c'est vraiment ridicule. Si ça se saurait s'il y avait une ouverture de 200 km de diamètre au niveau du pôle Nord. Voilà.
J'ai vu cette photo aussi.
Mais ensuite, je suis quand même allé voir sur Internet. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sites qui parlaient de cette théorie. Et j'ai également visionné une vidéo. C'était une interview de Jacques Fortier. Alors, c'est un chercheur québécois, autodidacte. Et lui, il a fait des mesures. Dans une mine au Québec, au Canada. Et donc, il a mesuré la gravitation. Il a mesuré la variation de la gravitation avec une balance très précise. Et il s'est rendu compte que ces mesures correspondaient plutôt à une Terre creuse. Alors, il faut savoir que quand on parle de Terre creuse dans le modèle dont je parle, il ne s'agit pas d'une coquille qui serait fine de quelques centaines de kilomètres. Il s'agirait plutôt d'une coquille qui ferait 2800 kilomètres d'épaisseur.
Ce qui correspondait, c'est ça, apparemment, à un quart du rayon de la Terre.
Ça correspond presque à la moitié du rayon de la Terre. Alors, je me suis dit, bon, Jacques Fortier a fait cette expérience, c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, il peut très bien se tromper. Je suis allé voir dans des livres, dans une librairie à Montpellier, ce que disait le modèle classique. J'ai essayé de comprendre comment les scientifiques en étaient arrivés à établir un modèle de Terre solide à trois couches, donc avec la croûte, le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Comment ils en sont arrivés à être quasiment sûrs que la Terre était effectivement pleine. Donc j'ai vu, ce qui m'a beaucoup posé problème, c'est qu'ils présentaient dans des livres, des pavés, hein, des énormes livres, des diagrammes, enfin des schémas présentant la propagation des ondes sismiques. Et si on demande à n'importe quel scientifique, il répond qu'effectivement, les données sismologiques prouvent que la Terre est pleine. En fait, j'ai réalisé, après de longues recherches, que ce n'était que des hypothèses. Effectivement, les scientifiques pensent que les ondes sismiques traversent la Terre d'une certaine façon, à savoir principalement en ligne droite. Donc, ils imaginent qu'elles passent par le centre de la Terre et qu'elles ressortent de l'autre côté. Elles sont effectivement mesurées. Quand il y a un séisme en un point A, on constate que les ondes sismiques, on les retrouve en un point B, qui est l'exact opposé de A par rapport à... Et alors, comment ce serait possible que la Terre soit creuse, mais que les données sismologiques soient quand même valables? Comment on pourrait faire correspondre les données sismologiques à un modèle de Terre creuse? C'est ça que je me posais comme question. Et finalement, j'ai réalisé qu'un scientifique sud-africain avait proposé un modèle de propagation des ondes sismiques qui valide la théorie de la Terre creuse.
Donc c'est Yann Lamprecht, c'est ça?
Yann Lamprecht, voilà. Mm-hmm. Alors malheureusement, il a disparu en 2011.
Vous voulez dire qu'il est décédé?
Il a probablement, à mon avis, il a été assassiné.
D'accord.
Mais
On
est sans nouvelles de lui. Mais ce n'est probablement pas à cause de sa théorie de la Terre creuse. C'est à mon avis plus en raison de ses positionnements politiques. Voilà, il dénonçait un génocide des Blancs envers les Noirs en Afrique du Sud. Voilà, tout ce que je peux dire. J'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, je pense qu'il a eu des soucis par rapport à ça. Mais donc quand je l'ai vu présenter une conférence à Amsterdam en 2003, à l'occasion d'une rencontre du magazine Nexus, j'ai réalisé qu'il avait un modèle informatique qui il avait fait varier en fait l'épaisseur du possible d'une coquille jusqu'à ce que ça puisse correspondre aux données sismologiques. Et pour une seule valeur de l'épaisseur de la coquille terrestre, à savoir 2850 km, eh bien, il trouvait que cela correspondait exactement, point par point, très précisément, aux données sismologiques connues.
Il pouvait calquer sur les recherches préalables cette pratique qui est de dire qu'effectivement les ondes se propagent d'un point A à un point B sur la Terre sans passer par le centre.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un séisme en un point A, on n'en mesure pas seulement un point B, mais un peu partout sur la surface de la Terre, et sauf dans une certaine zone qui s'appelle la zone d'ombre, en fait, il y a toute une répartition des ondes sismiques assez précise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? Richter et Gutenberg ont proposé un modèle de propagation des ondes sismiques qui correspondait à cette zone d'ombre et à cette répartition des ondes sismiques. Mais c'était à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, hein, je rappelle. Alors que lui, Jan Lamprecht, donc il a fait ça avec un ordinateur, et il trouve que voilà, ça correspond à la zone d'ombre, ça correspond au fait que les ondes sont de plus en plus nombreuses à l'approche du point B. Par contre, la seule chose qu'il dit, c'est qu'au lieu d'avoir voyagé en ligne droite, les ondes ont tout simplement parcouru un chemin courbe, c'est-à-dire qu'elles auraient contourné la cavité. Et quelle serait l'explication à cela? Eh bien, en fait, il pense qu'il y aurait une zone de densité maximale au centre de cette coquille solide qui ferait que les ondes sont réfractées. Donc, sur son schéma, on voit très bien que certaines ondes vont en ligne droite et d'autres sont réfractées de façon à ce qu'on les retrouve effectivement à l'opposé du point A.
Est-ce que c'est à l'opposé? Parce que moi, j'ai regardé un schéma graphique dessiné qui montre effectivement un angle de répercussion, mais il n'est pas forcément en opposition toujours. Parce que il me semble que dans l'article, vous faites une différence très particulière avec le type d'ondes qui se propagent aussi sous la Terre, qu'on appelle ou des ondes de cisaillement, c'est ça?
Oui.
Ou des ondes d'écrasement. Alors, c'est peut-être un peu technique.
Et ben pour simplifier, on va dire qu'il y a deux types d'ondes, les ondes S et les ondes P. Les ondes S, ce sont les ondes de cisaillement. Les ondes P, les ondes de compression. On n'aura pas besoin d'expliquer qu'est-ce qu'elles sont très précisément. Mais on va simplement dire que les ondes S sont réfléchies, justement, à cette profondeur de 2800 km dont j'ai parlé. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les scientifiques, les sismologues, se sont dit que c'était probablement parce qu'il y avait derrière un liquide. Alors, si les ondes S sont réfractées, ça veut dire que soit derrière, il y a un liquide, soit il y a un gaz. Mais comme ils n'imaginaient pas une seule seconde qu'il puisse y avoir un gaz, pour de nombreuses raisons dont je pourrais parler, ils se sont dit que c'était forcément un liquide. Donc, ils en sont arrivés à leur modèle avec un noyau externe plutôt liquide. Mais ils ont écarté, de fait, l'hypothèse que ça puisse être un gaz.
Et jusque-là, il semblerait que donc toutes les théories de ces propagations d'ondes étaient validées avec le principe premier, qui est effectivement la Terre était pleine.
Et que donc, oui, mais...
C'était le postulat.
Mais c'était un postulat, exactement.
La croyance. Plus que de la connaissance. D'une certaine
exactement, manière. C'est-à-dire que les scientifiques, même très honnêtement, avaient simplement en tête que la Terre était pleine. Donc ils ont appliqué un filtre mathématique aux données sismologiques. Ils les ont interprétées et ils se sont dit il faut absolument qu'on trouve un modèle de Terre pleine, de Terre solide, qui corresponde à ces données sismologiques. Ils en sont arrivés à ce schéma qu'on peut trouver sur Internet facilement, de propagation des ondes sismiques selon Gutenberg et Richter. Moi, je trouve que c'est assez tordu. Tandis que le modèle de Jan Lamprecht est très homogène. Il y a une loi en science qui s'appelle le rasoir de Kamm, qui dit que le modèle le plus simple est probablement le bon. Eh bien, le modèle de Jan Lamprecht est plus simple. Il présente une Terre homogène, une coquille homogène.
Comment peut-on expliquer, malgré tout, qu'il y aurait donc au pôle nord et pôle sud, donc des cavités, des ouvertures? Peut-être ça nous fait penser peut-être à un documentaire que peut-être certains ont vu qui s'appelle Shrive et pour parler un peu du Thor, je ne sais pas si
oui, c'est tout à fait.
Quelque chose à certaines personnes.
Le Thor, ça me parle beaucoup. En fait, quand on observe le champ magnétique terrestre, on pense tout de suite à un Thor. Enfin, disons à une multitude de Thors concentriques, emboîtés les uns dans les autres. Donc le champ magnétique terrestre est structuré autour d'un axe, qui est l'axe de rotation de la Terre, nord-sud. Par rapport aux ouvertures polaires, je préfère rester très très prudent. Je pense que c'est un sujet extrêmement délicat. J'ai lu beaucoup de choses très intéressantes sur Internet, mais pour l'instant, J'en ai presque pas parlé dans mon article, en fait. Parce que, voilà, ça me paraît trop fantastique, trop irréel, trop surréaliste.
Bah, disons que ça peut effectivement paraître fantaisiste, mais il me semble quand même qu'il y a beaucoup de textes anciens, de textes en sanskrit ou de choses comme ça qui mentionnent ce qu'on appelle l'agartha, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, dans les mythes et légendes multiples des différents peuples de la Terre, hein, jusqu'aux Tibétains, les Esquimaux, etc., les Vikings, il y a effectivement mention de ce pays à l'intérieur de la Terre, là où résident les dieux, etc., qu'on appelle l'Agartha, avec la cité de Shambhala. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Moi, je lis avec curiosité tout ça, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est scientifiquement... Alors bien sûr, il y a des récits d'explorateurs qui m'ont mis la puce à l'oreille, que j'ai trouvé très, très curieux, notamment celui d'Olaf Janssen, qui était un Norvégien, un pêcheur, qui était âgé de 20 ans en 1829, à l'époque où il est parti avec son père pêcher au nord de la Norvège. Et en fait, presque 80 ans plus tard, il publie un livre qui s'appelle The Smoky God, le dieu dans la fumée ou le dieu brumeux, qui raconte qu'il est allé à l'intérieur de la Terre, donc qu'il serait effectivement passé par une ouverture polaire. Et là, il aurait vu des arbres gigantesques, des millions d'oiseaux, des mammouths, des pommes de la taille d'une tête humaine, et même voilà, une civilisation de géants. Alors bien sûr, ça fait rêver, on peut se dire que c'est un roman, mais ça m'a quand même posé question. Et il y a aussi les déclarations de l'amiral Byrd. Donc l'amiral Richard Evelyn Byrd est un amiral de la marine américaine. Si on regarde dans un dictionnaire ou une encyclopédie, on constate qu'il a été le premier homme à survoler le pôle sud et le pôle nord. Mais je pense que les dictionnaires nous cachent la plus grande part de la vérité. En fait, on a demandé à l'amiral Byrd de garder le secret sur ce qu'il a commencé à voir à partir d'une certaine époque. Il aurait écrit dans son journal de bord qu'il aurait, donc avec son coéquipier, qu'il serait en fait parvenu à des contrées en fait, avec des vallées, des arbres, etc. Il aurait vu un mammouth, encore une fois, alors qu'il survolait le pôle Nord. Hein. Et, donc comment ça se fait qu'il ait pu parler donc, de ce continent, de ce pays derrière l'épaule, le centre du grand inconnu? Il a écrit dans son cahier « La vérité triomphera comme toujours. Je l'ai vu et cela a stimulé et libéré mon esprit. » Était-il devenu fou, cet homme qui avait à sa tête 4000 hommes, qui était considéré comme quelqu'un de sérieux, qu'est-ce qui est arrivé? Et voilà, il a déclaré que garder le secret allait à l'encontre totale de ses valeurs morales. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a vu? Voilà, je pose la question.
Bah, ça m'évoque en tout cas effectivement le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, qui est effectivement un texte...
Alors dans ce livre très connu, Jules Verne ne parle pas d'une terre creuse, mais plutôt de grandes cavités. Bon, voilà, je ne l'ai pas lu, mais voilà, c'est encore une fois un beau récit. Et à partir de... Mais peut-être que Jules Verne avait eu vent avait entendu certaines théories. Je pense que de nombreux de ses livres étaient prémonitoires. Peut-être que celui-là aussi, Voyage au centre de la Terre.
L'invention du sous-marin nucléaire.
Le sous-marin, 80 milieux sous les mers... Voyage du monde, tour du monde en 80 jours, etc.
Donc, moi, si je veux un peu plus d'éclaircissement, quelle est donc effectivement cette théorie qui parle effectivement donc d'une terre qui serait creuse, mais avec un noyau gazeux, et la corrélation avec justement ces témoignages de personnes qui prétendent que donc il y aurait un espace qui serait donc susceptible d'accueillir un monde vivant, des animaux, donc une atmosphère.
Oui. Eh bien, ce monde serait simplement sur la surface interne de la Terre creuse, et toute la partie gazeuse serait en fait une atmosphère respirable, hein, composée principalement d'oxygène, comparable à la nôtre en surface. Simplement, il y aura un volume d'oxygène, d'air beaucoup plus grand que celui de l'atmosphère terrestre. Alors, comment il serait entré dans la Terre creuse, justement, c'est ça qui me pose toujours question. Voilà, que ça paraît surréaliste. Voilà, et, on parle d'expédition au pôle Nord, d'exploration, une base américaine, Little America. Comment ce serait possible? Les images satellites, Google Earth, etc. Alors, il y a quand même de nombreux éléments qui me posent toujours question. Il y a ces images satellites prises par un satellite canadien avant 1978. Donc c'était à l'époque un satellite analogique et non pas numérique. Donc voilà, on peut voir sur le site Artivision, fait par Freddy Deal, un Français qui fait un énorme travail de documentation, on peut voir des photos satellites présentant une ouverture polaire voilà, qui change de diamètre. Alors c'est ça qui me paraît le plus surréaliste dans l'histoire. Il pourrait même être possible que ces ouvertures se ferment et s'ouvrent. Enfin bon. Alors elles ne seraient pas localisées exactement au pôle Nord, je pense pas. Mais bon, elles pourraient être au niveau du nord du Canada, au large de l'Antarctique. Voilà, il y a des observations de nombreux explorateurs, notamment Fridtjof Nansen, qui est un explorateur des régions arctiques, qui parle de vent chaud, de tout un tas d'anomalies, en fait, des neiges teintées par des pollens, du bois flotté.
Est-ce qu'il fait une corrélation, si je peux poser la question, avec les aurores boréales ?
Alors, les aurores boréales, c'est très intéressant. J'ai été contacté par téléphone par une Parisienne qui m'a dit qu'elle avait observé des aurores boréales. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que le mouvement de lumière dans les aurores boréales aille de haut en bas, donc du ciel vers la Terre. Et en fait, apparemment, il irait de bas en haut. Les scientifiques disent que les aurores boréales sont dues à de la matière ionisée qui vient de l'espace et qui descend sur Terre au niveau de l'axe du champ magnétique terrestre. Et moi, je me demande comment ça se fait que ça monte. Si ça monte, ça peut vouloir dire que ça vient de l'intérieur de la Terre.
Je voulais en venir là parce que c'était une des théories dont j'avais entendu parler, c'est qu'effectivement ces aurores boréales en fait seraient générées par ce qu'on appellerait éventuellement le soleil intérieur ou en tout cas quelque chose qui est lié au Thor.
Oui, alors le soleil interne, c'est très mystérieux pour moi. Sur certains forums d'astronomie sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps, mais que je ne citerai pas par respect pour les administrateurs, on m'a toujours opposé qu'une étoile interne, ce ne serait pas possible compte tenu de ce qu'on sait des étoiles externes observables dans la galaxie. Parce que si cette étoile avait une si petite taille pour tenir à l'intérieur de la Terre, en fait, elle ne pourrait pas briller, elle s'effondrerait sur elle-même, elle ne serait pas stable. Donc moi, je me suis simplement dit qu'il y avait peut-être peut-être qu'au centre de la Terre régnait en fait des lois physiques que nous ne connaissons pas bien encore. Hein, il s'agit de l'axe du champ magnétique terrestre. C'est un axe assez particulier. Au niveau du Soleil, on observe la sonde IBEX qui récemment a observé des violents jets de matière ionisée, hein, des atomes d'hydrogène hautement énergétique. Et en fait, ça part donc dans l'axe vertical, ça part dans l'espace, et bon, c'est un peu difficile à expliquer. Et je pense qu'effectivement, au centre de la Terre, il peut régner en fait des conditions particulières qui font qu'il y aurait une sorte de nuage de plasma, en fait. On pourrait dire plutôt du plasma, de la matière ionisée, qui pourrait faire croire que c'est une sorte d'étoile. Je parlais d'Olaf Jensen, cet explorateur norvégien. Le titre de son livre The Smoky God désigne cette chose lumineuse, brumeuse.
Donc on parle bien d'un corps gazeux.
Oui, un corps gazeux. Alors je parle de plasma. Le plasma, c'est un état de la matière qui est ni gazeux, ni liquide, ni solide, mais qui constituerait 99% de l'univers. Donc pourquoi ne pas imaginer qu'il y en a aussi au centre de la Terre ?
Ça paraît très cohérent.
Ça paraît assez cohérent, je trouve aussi. Voilà. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est le modèle de formation des planètes. C'est quelque chose qu'on m'oppose régulièrement. En fait, il y a un mouvement très très récurrent dans l'univers, c'est le mouvement de tourbillon ou de vortex. Quand on observe une galaxie ou un système planétaire, la matière et les astres sont en mouvement de vortex. Et plus on se rapproche du centre du vortex, plus ça va vite. En fait, dans le modèle de formation des planètes classique, ce mouvement n'apparaît pas au niveau de ce qui deviendra les planétésimaux. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la matière est stable, est immobile, et donc qu'elle s'agglomère. Mais dès le moment où on se dit qu'il y a aussi un phénomène de vortex à ce niveau-là, en fait, on tombe sur la formation de planètes creuses automatiquement. Parce qu'en fait, il y aura deux forces qui vont s'opposer. Il y aura la force centrifuge du vortex et la force de gravitation. Et à un moment donné, ces deux forces vont s'équilibrer au niveau de ce qui deviendra la coquille. En fait, la matière sera comprimée, elle sera éjectée du vortex jusqu'à ce que la gravitation prenne le dessus, et à ce moment-là, elle sera confinée dans une certaine zone qui deviendra l'écorce solide.
D'accord, donc c'est la couche terrestre solide qu'on connaît, sur laquelle on met...
Exactement, c'est la partie solide de la Terre.
Qui serait donc supportée par du plasma ou un corps...
Non, je ne pense pas qu'elle serait supportée. En fait, le plasma serait au centre, mais il y aurait aussi toute cette atmosphère interne. Donc il y aurait d'abord un centre de plasma, ensuite une atmosphère interne, la surface interne, et ensuite toute la coquille, l'écorce solide. Si on observe aussi la vitesse de rotation des planètes du système solaire, on constate que Jupiter, par exemple, tourne sur elle-même en 10 heures. Et en fait, c'est tout à fait, ça correspond tout à fait au modèle de vortex, en fait. Parce que plus le vortex serait rapide, plus il formerait des planètes grandes, des planètes volumineuses. Donc Jupiter aurait à son origine un vortex beaucoup plus rapide que celui qui a formé la Terre. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, la planète tourne 2,4 fois plus vite que la Terre.
Que la nôtre. Donc.
Que la nôtre.
Et est-ce qu'il y a des ouvrages, peut-être, que vous pouvez nous conseiller si on est intéressé par le sujet et qu'on voudrait pousser plus avant nos recherches?
Pour les personnes qui lisent l'anglais, il y a bien sûr l'ouvrage de Yann Lamprecht, qui s'appelle Hollow Planets, Feasibility Study, donc une étude de faisabilité. Donc, voilà.
Et qui a teneur très scientifique?
Oui, c'est assez scientifique.
C'est pas de la vulgarisation.
Non. Alors, en français, pour trouver un livre qui parle des théories scientifiques de Terre creuse en français, alors il y a un essai qui a été écrit par Raymond Bernard, je ne sais plus, dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais je ne le conseillerais pas. Voilà, c'est assez mauvais, on va dire. non, mais pour faire rêver, on pourrait tout simplement conseiller The Smoky God. Voilà, c'est paru en français aussi, Le Dieu dans la fumée. Et donc, c'est un récit assez magique.
Donc, un récit récent.
Alors,
qui validerait donc cette théorie, parce qu'il y a effectivement beaucoup de textes anciens
oui.
qu'on citait un peu en préambule et qui sont des textes qui parlent de cette théorie de Terre creuse, mais là c'est
pas récent. C'est le récit de ce voyage qui aurait eu lieu en 1829, mm-hmm. et donc le livre a été publié lui en 1908, parce qu'il faut savoir que quand Olaf Jensen est retourné parmi nous à la surface de la Terre, il a été trahi par son oncle et il a été interné dans un asile de fous pendant 28 ans, le pauvre. Et ensuite, toute sa vie, il a gardé le secret sur son aventure jusqu'au jour de sa mort, jusqu'à la nuit de sa mort, où il a raconté toute son histoire à Willis George Emerson, qui ensuite l'a retranscrit dans ce livre.
On peut le trouver facilement ?
Eh bien, moi je l'ai commandé, mais voilà, il faut le commander, je pense. Tout ce qui sera scientifique, ce sera en anglais, voilà.
Il y a peu de Français qui se sont
voilà,
intéressés.
Il y a peu de parutions sérieuses en français sur le sujet.
Sur le sujet de la Terre creuse.
Exactement.
Bon, Pierre, peut-être vous voulez ajouter quelque chose ou...
Non, je vous remercie. Je remercie sincèrement Radio Diwa de m'avoir interviewé. Je ne prétends pas que la Terre est creuse, simplement je souhaite ouvrir le débat. Et j'aimerais contacter, j'ai écrit une lettre aux instituts d'astrophysique principaux de France et de Belgique. Et donc j'attends des réponses. Si parmi les auditeurs, des gens, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui soient astrophysiciens, mais si parmi leurs connaissances, vous connaissez des astrophysiciens, ça m'intéresserait d'être en contact avec eux pour échanger. Moi, je suis tout à fait prêt à recevoir des arguments qui vont contre cette théorie. D'ailleurs, j'ai déjà eu une réponse d'un sismologue belge, de l'Observatoire Royal de Belgique, et je trouve que c'est très intéressant. Il commence sa lettre en disant qu'il est toujours intéressant de remettre en question nos acquis et de les réexaminer à la lumière de nouvelles hypothèses. Voilà. Il me dit aussi que, notamment concernant les ondes sismiques, j'ai raison de dire que l'observation de la propagation des ondes sismiques laisse une incertitude. Voilà. Il conclut en disant que dans l'état actuel des choses, il ne peut pas cautionner mes réflexions. Mais il écrit bien dans l'état actuel des choses. Voilà, c'est le genre de réponse que j'aime recevoir. Il m'a donné toute une série d'observations qui d'après lui, ne sont pas explicables par la théorie de la Terre creuse, mais ça ne correspond pas du tout à ce que la majorité des scientifiques pensent être la preuve de la solidité de la Terre. Donc c'est intéressant.
Il y a encore beaucoup de beaucoup de travail pour arriver effectivement à des choses comme ça. Mais donc vous pouvez donc contacter Pierre Fontanelle via aussi RDWA, donc le site de la radio, en tapant www.rdwa.fr. Et puis on vous mettra en contact si vous avez des choses à dire à Pierre Fontanelle, ou en tout cas à apporter de l'eau à son moulin, ou des éléments d'information scientifique qui pourraient nous permettre peut-être de faire une prochaine interview sur les ondes d'RDWA, sur le sujet donc qui était aujourd'hui celui de la Terre creuse. Donc je remercie Pierre Fontanelle d'être
Merci
venu
beaucoup.
Pour cet article que je rappelle qu'il a écrit dans un numéro de Nexus qui était quand même paru déjà il y a un petit moment. Vous pouvez nous...
Il y a un an, c'était... En octobre 2012.
Donc si vous voulez, vous pouvez effectivement vous procurer ce numéro de Nexus si le sujet vous intéresse. Voilà, en tout cas, merci Pierre. Et puis à bientôt peut-être pour de prochaines,
merci à toi.
De prochaines informations sur le sujet.
Peut-être à bientôt.
Merci à nos auditeurs et à bientôt.
Interview. 1. Terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.